Au lendemain de la victoire du tandem Kamala Harris-Joe Biden, édition très majoritairement consacrée aux orientations que l'on peut prêter à la future administration américaine intramuros et à l'international. Nous sommes en ligne dans un instant avec l'un de nos envoyés spéciaux, Jean-Marc Four, correspondance au Proche-Orient d'Alice Froussard, invité de ce journal. Bertrand Badi, professeur émérite des universités à l'Institut d'études politiques de Paris. Également au sommaire, les dernières informations en provenance du Haut-Karabakh. L'Azerbaïdjan prétend contrôler la ville stratégique de Choucha. Information démentie en fin de matinée par les autorités arméniennes. Les uns dans l'euphorie, quelquefois encore l'incrédulité, les autres dans les boues de l'amertume et du déni. Ainsi oserons-nous évoquer l'état d'esprit des deux Amériques qui se sont exprimées dans les urnes avec une majorité de votes pour Joe Biden, président élu depuis hier soir, et Donald Trump, président battu. Envoyé spécial à Wilmington dans l'état du Delaware, Claude Guibal a recueilli, vous allez l'entendre, le témoignage de Bridget, électrice démocrate.
J'hésite sur là où nous en sommes en ce moment. Je suis reconnaissante que notre pays puisse se rassembler, mais nous sommes en fait un pays divisé. Nous sommes à moitié-moitié. J'ai entendu quelqu'un dire que nous ne sommes pas que des États rouges ou des États bleus, mais plein d'États violets. Et je pense que pour aller de l'avant, il va falloir que tous nos législateurs, nos politiciens, même les moins importants, les élus locaux, les villes, les États et jusqu'au président, comprennent comment travailler ensemble, mettre de côté tout ce qui les divise et trouver un terrain d'entente. Beaucoup de choses nous divisent, mais beaucoup de choses nous unissent. Et c'est là-dessus qu'on doit se concentrer.
Bonjour, Jean-Marc Four.
Tous.
Bonjour, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux en direct de Washington. Jean-Marc, la victoire de Joe Biden est certes nette, mais à quelle gouvernance prétendent dans ce pays divisé ?
Alors il va se heurter à plusieurs écueils, on peut en énumérer au moins trois à mon sens. On va commencer par le plus immédiat jusqu'au plus structurel. Le plus immédiat, c'est évidemment le refus de Donald Trump de concéder sa défaite, ce qui est une première dans l'histoire politique américaine récente, et la volonté du président encore en place de multiplier les contentieux judiciaires. Il n'est pas certain qu'ils aboutissent vraiment, mais ça va forcément créer un climat où la passation entre les deux administrations va être assez compliquée. Ensuite, un peu plus loin, c'est-à-dire au mois de janvier, on va avoir une échéance absolument majeure. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'issue de cette semaine d'élection, il n'y a pas de majorité au Sénat. On devrait se retrouver avec une situation où il y a 50 élus républicains et 48 démocrates, avec deux postes de sénateurs qui vont être remis dans la balance au mois de janvier, les deux en Géorgie, qui est décidément un des États clés de ce scrutin. Et évidemment, Joe Biden a besoin d'une majorité au Sénat pour pouvoir gouverner confortablement. Donc on va avoir vraiment une campagne en janvier en Géorgie qui va être essentielle. Et puis le troisième point, qui est le point structurel évidemment, c'est que le nouveau président élu hérite d'un pays profondément divisé. On l'a vu ces derniers jours et ces dernières heures, avec une partie de l'Amérique, on va dire essentiellement dans les villes, qui est derrière lui, qui place ses priorités dans la lutte contre l'épidémie, dans la lutte contre le racisme systémique, dans la relance économique, et puis une autre Amérique moins urbaine, plus blanche, qui se focalise sur les questions notamment liées à la religion, par exemple d'avortement, et qui se range en fait derrière les positions de Mike Pence.
Merci Jean-Marc, pour rester avec nous. Joe Biden, lors de son discours de la nuit dernière, a émis la priorité des priorités de son mandat. Joe Biden.
Notre première mission sera de parvenir à contrôler l'épidémie de coronavirus. Nous devons relever notre économie, retrouver notre vitalité. Et nous ne pourrons pas renouer avec les moments les plus précieux de nos vies. Être avec nos enfants, nos petits-enfants, aller à des anniversaires, des mariages, des remises de diplômes, tous ces moments qui comptent tellement pour nous. Nous ne pourrons pas les retrouver tant que ce virus ne sera pas sous contrôle.
Voilà, Joe Biden, traduction signée Grégory Phillips. Bonjour Bertrand Badi.
Bonjour.
Professeur émérite des universités à l'Institut d'études politiques de Paris, merci d'accepter notre invitation. Bertrand Badi, sa gestion, ou plutôt sa non-gestion de la pandémie, qui continue d'ailleurs de faire des ravages aux États-Unis, aura-t-elle précipité, selon vous, la défaite de Donald Trump ?
C'est difficile à dire, mais je ne pense pas que cela ait joué comme facteur principal. Si véritablement la crise du coronavirus avait créé un vrai traumatisme dans la société américaine, les résultats auraient été tout différents et n'auraient pas été aussi serrés qu'ils le sont. Il semble bien avoir le profil des résultats que... D'abord, la variable économique, le facteur économique ait joué un rôle plus important, mais surtout que, au-delà même de la division dont on parle souvent de la société américaine, c'est la crise de la société américaine qui a été déterminante, comme elle l'avait été il y a 4 ans. Simplement, il y a 4 ans, on la diagnostiquait mal, on la voyait mal. Maintenant, c'est un peu le vote d'il y a 4 ans qui a été confirmé, avec une petite avance cette fois-ci en faveur du démocrate, ce qui lui a permis d'être élu, mais il n'y a rien de changé dans la donne qui avait pu apparaître en 2016 et dont même déjà les prémices apparaissaient plus tôt.
Bon, monsieur Badi, tout de même, il y a eu une évolution, c'est celle des indicateurs que nous montrent les indicateurs économiques. Quel défi à relever pour la future administration Biden selon vous ?
Alors, le mot défi est petit par rapport à la réalité. Toute l'administration de Trump a consisté à contenir la mondialisation et à la présenter à la face de ses électeurs comme étant la grande responsable des maux. Et donc, le jeu de Trump a été double. Il a été, d'une part, d'encourager la libre entreprise et les libres investissements à baisser les impôts qui frappaient les plus riches, ça c'est l'aspect intérieur, mais surtout de rétablir une sorte de protectionnisme qui, souvent, était même agressif. On l'a vu dans les négociations avec la Chine, on l'a vu dans les négociations plus ou moins amorcé avec l'Europe, c'est de devoir se situer face à cela qui attend maintenant Biden avec une très grande incertitude. Quelle est sa marge de manœuvre ? Quelle est sa marge de manœuvre d'abord parce qu'il n'a pas beaucoup de moyens institutionnels, il n'aura probablement pas un congrès à ses côtés.
Oui, Jean-Marc Four en parlait, il y a une difficulté, le travail bipartisan, la majorité au Sénat très incertaine, donc il va y avoir une crise de gouvernabilité, comme disait hier soir sur notre antenne François Vergnol de Chantal, qui est professeur de civilisation américaine à l'Université de Paris. Vous partagez cette locution de crise de la gouvernabilité ?
Mais ça va même au-delà d'un certain point de vue, parce que il faut comprendre que depuis 1945, les États-Unis se présentaient comme leaders. Faut pas oublier qu'en 1945, ils représentaient 25% du commerce international. Maintenant, ils en représentent à peine 10%. Donc il y a une mutation profonde, et c'est la gestion de cette mutation qui va poser problème, et Biden ne pourra pas grand-chose par rapport à cette pression très forte qui vient de milieux économiques et sociaux inquiets, qui se sentent menacés par la mondialisation. Vous savez, en l'espace de quelques années, de très peu d'années, les États-Unis se sont complètement retournés de la puissance porteuse de la mondialisation. Ils sont devenus le principal contestataire de celle-ci. Je vois mal comment Biden pourrait, d'un coup de baguette magique, retourner cette situation et pouvoir revenir au statu quo ante.
Vous restez avec nous, Bertrand Badi. Venons-en justement strictement à l'international avec cette phrase de Joe Biden, extraite de son premier discours de président élu la nuit dernière. Nous ne dirigerons pas seulement par l'exemple de notre puissance, mais par la puissance de notre exemple. Jean-Marc Four, quels sont, avec vous en direct de Washington, quels sont les pays qui regretteront Donald Trump et quels sont à l'inverse ceux qui attendent une autre copie, pourrait-on dire, de la part de Joe Biden ?
Alors, difficile de faire un tour d'horizon complet,
oui,
en quelques
secondes. C'est compliqué, j'en conviens.
Mais oui, on peut citer quelques noms qui vont probablement regretter un petit peu Donald Trump, le Turc Erdogan, le Polonais Kaczynski, probablement un peu Vladimir Poutine, même si le souhait intime, à mon avis, de la Russie était plutôt qu'il y ait une forme de chaos aux États-Unis. En partie aussi Benjamin Netanyahu, évidemment, qui a été beaucoup soutenu par Trump, qui en a obtenu beaucoup aussi. Mais ça n'a pas empêché Benjamin Netanyahu quand même de féliciter Joe Biden la nuit dernière. dernière. Donc c'est probablement une déception d'ailleurs pour Donald Trump. Et puis quels sont ceux qui attendent beaucoup de Joe Biden et bah, évidemment tous les autres, j'ai envie de dire. Hein. Donc au premier chef les Européens qui espèrent de meilleures relations transatlantiques, déjà sur un ton un peu plus courtois pour commencer. Et puis sur le fond évidemment la Chine qui est en guerre commerciale ouverte, mais je suis pas sûr que ça va changer beaucoup avec Joe Biden. Et puis l'Iran, bien entendu l'Iran, puisque l'autre, on sait que Joe Biden veut revenir dans l'accord de Paris sur le climat, et puis l'autre grand accord sur lequel il pourrait revenir, c'est évidemment de revenir à la table des négociations avec les Iraniens.
Bon, merci à vous. Merci infiniment Jean-Marc Four d'avoir été en direct avec nous dans cette édition de la mi-journée. Le Proche-Orient, justement, vous parliez Jean-Marc de Benjamin Netanyahou. Nous sommes à Jérusalem avec Alice Froussard. Quand Israël, Alice Froussard perd un allié zélé, l'autorité palestinienne, manifestement, compte trouver un appui, une écoute.
Au cours des dernières années, Donald Trump a adopté une politique très favorable à Israël, au point de pousser les Palestiniens à couper les ponts avec Washington. La victoire de Joe Biden est donc un changement de style pour les Palestiniens. Après l'avoir félicité, Mahmoud Abbas appelle le nouveau président élu à renforcer les relations américano-palestiniennes. Il se dit impatient de travailler avec lui, notamment pour garantir, je cite, « la liberté, l'indépendance, la justice et la dignité du peuple palestinien ». Mohamed Shtayyeh, le Premier ministre, s'est lui aussi exprimé sur Twitter à temps des relations bilatérales constructives. Nabil Chat, un conseiller de Mahmoud Abbas, précise de son côté qu'il n'y a pas eu pire que Trump et que le voir partir est donc déjà une victoire. Mais Joe Biden devra faire ses preuves. « Nous ne nous attendons pas à une transformation miraculeuse », précise Anan Ashraoui du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine. « Il est temps d'adopter des thérapies holistiques et audacieuses », dit-elle sur Twitter, un peu comme une mise en garde. De son côté, le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza appelle la future administration Biden à en finir avec les politiques injuste des États-Unis, notamment en annulant le plan Trump pour le Moyen-Orient ou en rétablissant le soutien financier à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens.
Correspondance à Jérusalem d'Alice Froussard. Bertrand Badi, est-ce que Joe Biden peut revenir sur le déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem ? Premier point peut-être avec vous.
Il a laissé entendre qu'il ne reviendrait pas sur cet acte. Et je pense que cette déclaration est assez significative de ce qu'est sa posture aujourd'hui, c'est-à-dire que Biden peut changer de style, c'est vrai, de changer de méthode, être plus aimable, je dirais, plus porté au partenariat que ne l'était son prédécesseur, mais sur le fond, il reste deux éléments qui oblige à nuancer les espoirs que d'aucuns pourraient avoir. Premier élément, revenir sur des gestes spectaculaires de Trump, ce serait risquer de créer des effets de rétroaction, des effets de tension avec ses partenaires. Je ne pense pas effectivement que Biden ose véritablement provoquer Netanyahou.
Risquer de provoquer le Premier ministre israélien. Voilà.
C'est peu probable. De même, il ne faut pas s'attendre à grand-chose de nouveau dans ce qui est vraiment l'événement au Moyen-Orient, c'est-à-dire la constitution de ce triangle Tel Aviv-Riyad-Washington. Je pense qu'effectivement, dans la péninsule arabique, bien des princes sont inquiets parce que Trump était allé très loin dans la reconfiguration finalement de la carte du Moyen-Orient. On voit que quelque chose, une petite lueur s'allume du côté de l'Iran, ce qui peut faire peur de l'autre côté du Golfe Persique dans la péninsule arabique. Mais véritablement, tout ceci ressemble tellement à un château de cartes que Biden, qui est de nature prudente, centriste, pas véritablement audacieux, n'osera probablement pas aller trop loin, en tous les cas, dans un premier temps. Effectivement,
d'un dernier mot, oui, je vous écoute.
Le nœud peut se dénouer, c'est du côté de l'Iran. Est-ce que Biden aura le courage qu'il a annoncé de faire un pas en direction de l'Iran? Et là, bien des choses peuvent se recomposer un peu dans l'esprit de 2014-2015, quand on était arrivé au premier accord. Sinon, je pense que ça sera le statu quo, et je crois qu'il faudrait quand même davantage regarder dans cette direction que dans celle d'un changement brutal des relations internationales et de la politique internationale américaine.
Bon, merci infiniment. Merci Bertrand Badi, professeur émérite des universités à l'Institut d'études politiques de Paris. Nous continuerons dans nos prochaines éditions, évidemment, de sonder, comme nous le titrions, les orientations à l'international de la future administration Biden, qui peut-être va accueillir des républicains dans le cadre d'une espèce d'ouverture à l'américaine, en quelque sorte. C'est ce qu'on pouvait dire à l'heure qu'il est, the day after, le jour d'après, la proclamation de président élu de Joe Biden comme d'un président élu. La guerre au Haut-Karabakh, le président azerbaïdjanais prétend, après plusieurs jours de combat, que son armée occupe désormais la totalité de la ville stratégique de Choucha. Les combattants pro-arméniens, de leur côté, assurent que les combats se poursuivent toujours. En bref, en France, l'épidémie de Covid et des indicateurs qui s'aggravent de jour en jour. Un bilan qui dépasse désormais les 40 000 morts. Le gouvernement exclut l'hypothèse d'un confinement ciblant uniquement les personnes âgées pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. En fin de temps de l'après-midi, en quelques mots, marqué par de fortes pluies et des orages intenses dans le sud-est du pays, où un département, les Bouches-du-Rhône, reste en vigilance orange aux orages et inondations. Cette édition a été préparée avec Julien Loquet, à la technique Théo Gomard.